Donc ce soir, nous recevons Luis Quintana Murci, directeur de l'unité de génétique et évolution humaine à l'Institut Pasteur. Il va nous parler de diversité du génome humain, vous le voyez déjà, de l'histoire des populations humaines aux maladies infectieuses. Donc cette leçon fait partie de la notre série de 19 conférences sur le qu'est-ce que la vie, où en est-on de la connaissance du génome, jusqu'au 8 juillet. Donc nous reprenons pour 5 conférences. Je vous signale que demain, il y aura une conférence à deux voix, double, ça ne veut pas dire que le temps sera double hein, quand même, l'homme transgénique des possibilités infinies par Radman et Veil. Nos prochaines conférences auront lieu en octobre, du 11 au 19 octobre, autour d'un thème sur l'humanisme et les humanités. Vous en saurez plus quand le programme sera complètement défini. Sur les modes de diffusion de l'Université Tous les Savoirs, je ne dis rien de particulier, sinon je vous renvoie, pour ceux qui ne le seraient pas encore, à la quatrième page du programme, où vous avez toutes les manières de nous retrouver. Je précise seulement que cette conférence, comme les autres, sera diffusée sur France Culture dans le cadre de l'émission « L'éloge du savoir » après l'été, à une date qui n'est pas encore fixée. Alors, je présente maintenant notre conférencier. Il est né, c'est Luis Quintana Murci, donc directeur de l'unité génétique et évolution humaine de l'Institut Pasteur. Il est né en 1970. Il a fait une thèse de doctorat en génétique à l'université de Pavie, en Italie. En 2001, il est entré au CNRS. En 2005, il a reçu son habilitation à diriger les recherches de l'université Paris 6. Et depuis 2007, il dirige l'unité de génétique évolutive humaine à l'Institut Pasteur. Ses publications sont essentiellement des articles scientifiques dans les journaux internationaux à comité de lecture, donc la production scientifique d'un chercheur jeune. Et donc, il va vous présenter ce soir l'état des lieux sur diversité du génome humain, de l'histoire des populations humaines aux maladies infectieuses. Je lui laisse la parole pour une cinquantaine de minutes et puis je reviendrai ici pour la séance des questions. Voilà, je vous remercie et à vous, Luis Quintana Murci.
Bonsoir tout le monde et merci de me donner l'opportunité de vous présenter nos travaux sur la diversité du génome humain. J'espère vous convaincre au bout de ces 50 minutes de l'intérêt de l'étude de cette diversité, de cette richesse génétique qu'il y a en nous tous. Et ça a deux volets d'application, cette étude de cette diversité génétique. Un volet plus fondamental, plus de connaissance de l'histoire et de l'origine de notre espèce, et un volet qu'on applique aussi au laboratoire, que c'est mieux comprendre nos relations avec les agents infectieux et les maladies infectieuses. Donc vous avez sûrement entendu parler les dernières années du séquençage du génome humain. Le séquençage du génome humain a été très utile pour mieux comprendre où sont localisés les gènes et la structure des gènes, mais en aucun cas ça nous a renseigné sur l'outil de base de nos études, c'est-à-dire ça ne nous a pas renseigné sur la diversité du génome humain, c'est-à-dire les différences qu'il peut avoir génétiques entre les individus et les populations. C'est pour cela qu'il y a eu ensuite différents consortiums internationaux qui avaient comme but principal caractériser le taux de polymorphisme, c'est-à-dire les mutations, les variants génétiques qu'on trouve entre les différents individus. Il y a eu aussi, il y a quelques années, le séquençage complet du génome du chimpanzé, chose qui était intéressante en tant que telle, mais surtout dans le cadre de la connaissance de notre histoire, a été très intéressant parce que ça nous permet de comparer le génome du chimpanzé avec le génome humain et essayer d'identifier les parties du génome humain qui sont spécifiques à l'homme afin de mieux comprendre quelles pourraient être les bases génétiques qui nous rendraient ce que nous sommes, c'est-à-dire des humains. Donc ici on a une séquence d'ADN avec des changements, ce qu'on appelle du polymorphisme. Si vous prenez deux individus au hasard dans la population quel que soit, et ça c'est très important, quelle que soit son origine ethnique ou géographique, vous allez trouver en moyenne 3 millions de différences entre deux individus. La plupart de ces différences, environ 95% de ces différences génétiques entre individus, n'ont pas d'effet phénotypique, c'est-à-dire ne vont engendrer aucune différence physique ou physiologique dans les individus qui arborent ces mutations. Et alors, la répartition de toutes ces mutations, de tous ces polymorphismes entre les différentes populations humaines est gouvernée par ce qu'on appelle en jargon la dérive génétique, qui n'est pas autre chose que le hasard. Ces polymorphismes vont se balader entre les populations que par les effets du hasard. Donc l'étude de ces polymorphismes qu'on appelle neutres, parce qu'ils n'ont aucune conséquence entre les différentes populations, va nous renseigner sur l'origine de l'homme et les migrations humaines, qu'on va voir avec quelques exemples par la suite. Mais une partie de ces polymorphismes, ici en rouge, ils vont avoir des conséquences physiologiques, physiques, que ce soit des conséquences bénignes, comme simplement nos différentes apparences physiques, mais aussi une partie de cette diversité génétique va pouvoir expliquer pourquoi pas tout le monde métabolise de la même façon les aliments, pas tout le monde va digérer de la même façon le lait, par exemple. C'est un des cas classiques. L'homme, à la base, n'est pas programmé à pouvoir digérer le lait après la période de sevrage, mais une grande partie entre nous, on va dire pour ceux qui sont d'origine européenne, entre 40 et 60% pouvons continuer à boire le lait. Ça, c'est dû à une mutation qui est apparue il y a à peu près 3-4 000 ans, d'une façon parallèle au moment où les populations ont commencé à savoir faire l'élevage. Et donc, cette mutation a été soumise, on va voir par la suite, à ce qu'on appelle la sélection naturelle. Une partie de cette diversité en rouge peut aussi expliquer pourquoi pas tout le monde va réagir de la même façon face au traitement thérapeutique. Un exemple aussi, c'est l'isoniazide, c'est un antibiotique qu'on donne souvent quand on a une tuberculose. Pas tout le monde va réagir de la même façon, avec la même rapidité à cet antibiotique. Il y aura des gens qui vont développer des effets secondaires, tandis que d'autres ne vont pas développer des effets secondaires. Dans le cas que je vous donne de l'isoniazide, on connaît très bien des mutations génétiques dans un gène en particulier que sont les responsables de ces différentes réactions face au traitement thérapeutique. Et une partie de cette diversité génétique humaine va aussi expliquer pourquoi pas tout le monde va réagir de la même façon face aux agents infectieux. C'est-à-dire, un cas aussi classique, c'est la tuberculose. Sur 10 personnes qui sont infectées par le bacille de la tuberculose, si on corrige par l'âge, le sexe, les conditions socio-économiques, juste une personne va vraiment développer la maladie. Il y a des bases génétiques de l'hôte qui vont aussi vous rendre plus ou moins vulnérable à développer la maladie. Quelles sont alors les forces qui vont influencer toute cette diversité génétique qu'on trouve entre les individus? Il y a ce qu'on appelle les forces génomiques, notamment la mutation. C'est la seule force créatrice, entre guillemets, de variabilité. Elle va engendrer la variabilité parce que quand l'ADN va être recopié dans les cellules, il y a des erreurs. Ces erreurs souvent sont corrigées, mais parfois ils ne le sont pas, et alors sont transmis de génération en génération. Et là, on est à la base et à l'origine du polymorphisme génétique. Il y a d'autres forces, comme l'histoire démographique des populations va également influencer la diversité génétique. C'est-à-dire, des populations qui sont en expansion démographique depuis longtemps, la plupart des populations européennes, africaines et asiatiques, vont avoir plus de diversité génétique que des populations qui ont souffert ce qu'on appelle des goulots d'étranglement ou des effets fondateurs, exemple classique, les Québécois ou les Juifs askénazites, qui vont avoir en moyenne, bien sûr, moins de diversité génétique parce qu'il y a eu une réduction de la population et donc par conséquent une réduction de la diversité génétique. Une force extrêmement importante qui va aussi participer à la diversité génétique, dont je vais vous donner quelques exemples à la fin, c'est la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est cet facteur qui nous permet à chacun de nous de mieux nous adapter à notre environnement, que ce soit un environnement climatique, un environnement nutritionnel ou un environnement pathogénique. Et finalement, dans le cas de l'homme, on a aussi des forces culturelles qui vont influencer la diversité génétique. Le mode de vie des populations de chasseurs-cueilleurs ou des populations d'agriculteurs, la structure sociale, les coutumes culturelles, la religion, ça peut aussi influencer la langue, que certaines populations vont se mélanger plus ou moins entre elles que d'autres. Donc voici, je vais vous donner des exemples un peu de chacune de ces forces qui influencent la diversité du génome humain au niveau des populations. Et on va commencer par des exemples qui nous ont aidé à mieux comprendre l'origine de l'homme. Dans le cadre de l'étude de la diversité génétique pour mieux comprendre les origines de l'homme et les migrations humaines, on a deux marqueurs génétiques qui ont été un peu les vedettes les dernières 15 années dans la recherche scientifique. C'est l'ADN mitochondrial et le chromosome Y. Pourquoi ces deux marqueurs ? L'ADN mitochondrial, vous le voyez ici, c'est une molécule circulaire qui est dans les mitochondries. Les mitochondries, vous les voyez ici, sont dans les cellules. Et en gros, sa fonction, c'est produire de l'énergie pour la cellule, donc pour la vie. L'intérêt en génétique des populations humaines de l'ADN mitochondrial, c'est qu'il est hérité par la voie maternelle. C'est-à-dire, nous tous ici, nous avons deux paires de chromosomes, nous avons un ADN mitochondrial, et cet ADN mitochondrial, de nous tous ici, on l'héritait que de notre mère, et de notre grand-mère maternelle, etc., etc. L'analogie avec le chromosome Y, comme vous savez, le chromosome Y, c'est un chromosome sexuel, et il héritait que de père en fils. C'est-à-dire, tous les hommes qui sont présents dans cette salle, par définition, ils ont hérité leur chromosome Y de son père et de son grand-père paternel, etc. Donc, c'est quoi l'intérêt en histoire de population de ces deux marqueurs? Si vous regardez ici en bas, pour rendre possible cette diapositive, j'ai mis juste deux chromosomes autosomaux, qu'on appelle, que sont ceux qu'on hérite un de notre père et l'autre de notre mère. Mais à la fois, notre père et notre mère les ont hérités de ses parents, et comme ça, on peut aller en arrière dans le temps. Donc, comme vous voyez ici, les chromosomes non sexuels, donc les autosomes, sont un mélange de toutes nos générations d'avant, de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, etc. Tandis que l'ADN mitochondrial, c'est cette petite molécule rouge ici, c'est exactement le même rouge que de notre mère, que de notre grand-mère maternelle. Le chromosome Y a été transmis aussi, sans modification, de notre père et de notre grand-père paternel. Donc, si vous regardez cet individu ici, et imaginez que ça c'est une population, et on étudie l'ADN mitochondrial d'un côté et le chromosome Y de l'autre côté, on peut retracer directement les ancêtres maternels d'un côté et les ancêtres paternels de l'autre côté, sans le bruit de fond qu'on trouve chez les autosomes dû à ce qu'on appelle la recombinaison, c'est-à-dire le brassage qu'il y a à chaque génération, mère-père, mère-père. Donc, l'étude de ces deux marqueurs a été très utile pour mieux comprendre d'abord l'origine de l'homme. Il y avait deux grandes hypothèses pour expliquer l'origine de notre espèce. Ce qu'on appelle l'hypothèse multirégionale, cette hypothèse postulerait que toutes les populations modernes, donc d'Homo sapiens d'aujourd'hui, les Africains d'aujourd'hui, les Européens d'aujourd'hui, les Asiatiques d'aujourd'hui, les gens du Pacifique d'aujourd'hui, chacune de ces populations se serait originée à partir d'une population locale d'Homo erectus. C'est-à-dire, ça aurait été l'Homo erectus africain qui aurait évolué pour donner ce que c'est aujourd'hui, les Africains d'aujourd'hui, Homo sapiens, mais ça aurait été l'Homo erectus européen qui aurait aussi en parallèle évolué pour donner les Européennes d'aujourd'hui. Dans le pôle opposé de cette hypothèse, on a l'hypothèse que s'appelle du remplacement rapide, ou de l'out of Africa en anglais, qui postule que toutes les populations d'aujourd'hui, africains, européens, asiatiques, pacifiques, tous viennent d'une population d'Afrique qui aurait évolué pour donner un homo sapiens archaïque au début, et que ça aurait été cet homo sapiens africain qui aurait sorti de l'Afrique pour coloniser l'Europe, l'Asie, le Pacifique et remplacer tous les hominides qu'il y avait avant dans les différents continents. Donc l'étude de l'ADN mitochondrial et le chromosome Y a beaucoup aidé à trancher entre ces deux hypothèses. Et comment ça? Ça c'est en gros un résumé de 20 ans de recherche de beaucoup de laboratoires au monde. Ça, c'est un arbre phylogénétique qui montre différentes populations humaines, ici. En gros, il y a deux choses importantes à voir. La longueur de chaque branche indique la diversité génétique de cette population. Donc, ce que vous pouvez voir déjà, c'est que les populations africaines, ici, en violet, sont des populations qui montrent plus de diversité génétique. Ça veut dire que ça fait plus longtemps qu'elles existent. Les populations européennes et asiatiques, ils montrent moins de diversité génétique, ça veut dire que ce sont des populations plus jeunes, et encore plus important que les populations européennes et asiatiques trouvent leurs racines dans les populations africaines. Ça a été utilisé pour soutenir l'hypothèse, le modèle d'une origine africaine de nous tous en Afrique, il y a environ 150 000 200 000 ans. Le chromosome Y, en gros, quelques années après, a montré exactement la même chose. C'est-à-dire, ce sont des lignées simplement de chromosome Y. Les lignées A, B et C sont des lignées africaines et on voit que toutes les autres lignées sont pas seulement plus jeunes, mais ils trouvent leurs racines aussi en Afrique. Ce qui nous a permis de dire que aussi bien nos ancêtres maternels témoigné par l'ADN mitochondrial, que nos ancêtres paternels témoignés par le chromosome Y se sont originés en Afrique il y a à peu près 150-200 000 ans. Donc la situation aujourd'hui est celle-ci. Les couleurs que vous voyez représentent la diversité génétique. L'homme se serait originé en Afrique, comme je vous ai dit, 150-200 000 ans. Il quitte l'Afrique il y a à peu près entre 60 et 100 000 ans. Mais pas tous les Africains quittent l'Afrique. Un sous-ensemble de cette diversité africaine quitte l'Afrique. Et ça, c'est la situation qu'on trouve aujourd'hui quand on regarde l'ADN mitochondrial, le chromosome Y ou aussi d'autres chromosomes, moins de diversité hors d'Afrique. Et toute cette diversité, c'est un sous-ensemble de ce qu'on trouve en Afrique. Donc, l'étude de la diversité génétique est utile pour comprendre des histoires démographiques à l'échelle de la planète, comme vous voyez ici. Excusez-moi. Mais aussi, on peut étudier des migrations dans des endroits beaucoup plus précis. Ça, c'est une étude qu'on avait faite il y a quelques années, quand j'étais encore en Italie. Et on avait étudié l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire nos ancêtres maternelle dans différentes populations africaines et asiatiques, et on avait mis en évidence un marqueur génétique qui montrait que l'homme aurait quitté l'Afrique il y a à peu près 60 000 ans en partant de l'Afrique de l'Est et en suivant une route côtière pour coloniser l'Asie et à partir de l'Asie finalement l'Asie de l'Est et le Pacifique. Aussi, on peut l'étude de l'ADN mitochondrial ou le chromosome Y est aussi informative à des échelles géographiques beaucoup plus restreintes. Ici, vous voyez la région de ce qu'on appelle le couloir de l'Asie du Sud-Ouest, ce qui en gros connecte le Moyen-Orient, vous voyez ici l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Asie centrale et finalement l'Inde. On peut voir comme dans une région relativement restreinte comme celle-ci, on trouve des composants génétiques de beaucoup de différentes origines. On peut voir ici un jeune, l'influence de l'Asie de l'Est sur toute l'Asie centrale, le Kyrgyzstan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan. On peut voir quand toute cette partie plus vers le Moyen-Orient ressemble beaucoup plus qu'on trouve en Europe. Et on peut voir aussi des traces, comme ici, dans cette population-là, qui s'appelle les Makranis, c'est une population qui sont au sud, sur la côte du Pakistan, des traces très importantes de lignées d'origine de l'Afrique subsaharienne, ce qui témoigne aussi l'esclavage qu'il y a eu de l'Afrique de l'Est vers l'Inde et le Pakistan dans les dernières 500 ans. Maintenant, je vais vous présenter un exemple de comment la structure sociale et les forces culturelles peuvent aussi influencer la diversité génétique. Cette étude a été principalement organisée par un laboratoire parisien au Muséum national d'histoire naturelle, au Musée de l'Homme, dirigé par Evelyne Eyers. Ce sont des spécialistes dans l'étude de l'ethnologie, l'ethnogénétique des populations de l'Asie centrale. Alors, ils avaient organisé un travail de terrain pour échantillonner plusieurs populations, dont vous voyez leur nom ici, de l'Asie centrale, notamment de l'Ouzbékistan. Alors, l'intérêt de ces populations, c'est qu'ils sont organisés en ce qu'appelle groupe de filiation. C'est-à-dire, nous, notre filiation, c'est notre nom et notre prénom. Il y a des populations dites traditionnelles, que, mis à part le nom ou le prénom, que dans la plupart des sociétés occidentales, c'est notre groupe de filiation, une personne appartient à un lignage d'abord. Plusieurs lignages appartiennent à un clan. Plusieurs clans appartiennent à une tribu. Et plusieurs tribus font la population, c'est-à-dire les Ouzbeks ou les Karakalpaks, etc. Ce que c'est intéressant, c'est que le groupe de filiation auquel vous appartenez, c'est-à-dire votre lignage, votre clan, votre tribu, est hérité par le père. Comme dans la plupart des sociétés occidentales, d'ailleurs, le nom de famille, c'est celui de votre père. Moi, je suis une exception parce que je suis d'origine espagnole, donc j'ai mon premier nom, c'est mon père, et mon deuxième nom de famille, c'est ma mère. En tout cas, en Asie centrale, c'est hérité par le père. Et notre contribution dans cette étude, c'était l'analyse du chromosome Y dans toutes ces différentes populations. Et pourquoi le chromosome Y? Parce que le chromosome Y se transmet aussi par le père. Alors, la question qu'on s'était posée dans cette étude en collaboration, c'était, les gens qui appartiennent à un même lignage, ils se clament avoir un ancêtre commun. C'est comme si tous les gens qui s'appellent Durand, ils disent on a tous un ancêtre commun. Les gens qui appartiennent au même clan, de même, ils disent qu'ils ont un ancêtre commun, quelque part dans l'histoire, de même pour la tribu. Donc la question qu'on s'était posée, c'était très simple. On s'est dit, si ça c'est vrai, que les gens d'un même clan, d'un même lignage, ils ont un ancêtre commun, ça veut dire que leurs chromosomes Y, comme c'est transmis par la voie paternelle, seront plus ressemblants entre eux que par rapport à la population générale. Si les gens d'un même clan, ils viennent d'un même ancêtre, leurs chromosomes Y seront aussi plus reliés entre eux que par rapport à la population générale, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Ici vous avez... En gros, ça c'est le niveau d'apparentement génétique sur la base du chromosome Y. Qu'est-ce qu'on a vu ? Que les gens du même lignage sont plus reliés entre eux que les gens de la population générale. Ici. Les gens d'un même clan sont plus reliés entre eux que les gens de la population, que les gens de la population générale. En revanche, les gens qui appartiennent aux mêmes tribus ne sont pas plus génétiquement apparentés entre eux que la population générale. Ce que nous a fait proposer, que le niveau hiérarchique de filiation lignage et clan correspond à une vraie entité génétique, tandis que le niveau de filiation tribu, c'est une entité sociale. C'est-à-dire, c'est un regroupement de différents clans que, dans ce qu'on connaît de l'histoire des populations de l'Asie centrale, se sont mis ensemble pour renforcer l'unité du groupe. Ça, si on va un peu en arrière dans tous nos pays, en gros, ça se passait la même chose. La France, l'Espagne, l'Italie, finalement, des petits clans ou des petits royaumes que se sont mis ensemble pour renforcer, en quelque sorte, la visibilité du pays ou de la nation ou de l'État. À vous de choisir ce que vous préférez. On a d'autres exemples dans la littérature très intéressants de comment la culture peut influencer la distribution de la variabilité génétique dans la population. On a le système de caste en Inde qui, bien sûr, va empêcher le brassage génétique, la mélange génétique, si vous êtes d'une caste ou de l'autre. Aussi, différentes études ont montré que, historiquement, les femmes migrent plus que les hommes. C'est-à-dire, historiquement, et en tout cas à l'échelle européenne, ça a été montré, les femmes, après mariage, ont eu la tendance à toujours rejoindre la ville natale de son mari. Si ça, on fait le parallèle génétique, ça veut dire que les ADN mitochondriales ont été plus mobiles, parce qu'ils ont bougé, tandis que les chromosomes Y, c'est-à-dire les hommes, ont resté ancrés, historiquement, dans leur ville d'origine. Aussi, on a des exemples de différentes contributions d'hommes et femmes pendant la période d'esclavage. Je ne veux pas rentrer dans ça, mais c'est assez intéressant de voir les différences entre ce qu'on appelle l'esclavage atlantique, c'est-à-dire vers les Amériques, dont il y a tout une contribution visuelle aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens d'origine africain-américain en Amérique. Tandis qu'à niveau d'importance, il y a eu un esclavage aussi qui était très important, que c'est l'esclavage dans l'océan Indien. Mais pour des raisons socioculturelles, que si quelqu'un est intéressé, on peut en parler pendant la discussion, n'a pas donné une contribution clair en tout cas dans les populations actuelles asiatiques. La polygamie aussi et les corrélations génétiques linguistiques, c'est-à-dire au cours de l'histoire, les populations, ce que semble assez logique, qui parlent la même langue ont la tendance à se mélanger beaucoup plus entre eux que par rapport à une population, même si c'est à côté, qui ne parle pas la même langue. Un autre exemple de comment la culture va aussi influencer la répartition de la diversité génétique. Finalement, on arrive à une autre grande type de force qui va influencer la diversité génétique, que c'est la sélection naturelle, force dont on s'occupe beaucoup dans mon laboratoire. On a vu plus ou moins, ça c'est le consensus d'origine et sortie de l'Afrique de l'homme, pour coloniser l'Europe, il y a à peu près 40-50 000 ans, l'Asie, très vite le Pacifique, et beaucoup plus tard, les Amériques, on ne sait pas très bien s'il y a une seule vague de migration ou plusieurs. Mais au cours de ce voyage que l'homme, Homo sapiens, a colonisé le monde, c'était un voyage pas facile parce qu'il a dû faire face à différents environnements climatiques, différents environnements nutritionnels et différents environnements pathogéniques. Alors, la base de la sélection naturelle et de l'adaptation de l'homme à son environnement, c'est qu'il peut avoir des variants génétiques qui arrivent par hasard, mais que cette variante génétique va vous conférer un avantage pour mieux vous adapter à l'environnement. Donc ça, c'est la base de ce qu'on appelle la sélection naturelle. Il y a différents types de sélection naturelle. Il y a ce qu'on appelle la sélection positive. Ça veut dire quoi? Et si vous avez un groupe de chromosomes, et en bleu, vous avez des mutations neutres. Je vous rappelle que ce sont celles qui n'ont aucun effet. Mais vous avez une mutation qui apparaît en rouge, et cette mutation apparaît dans un environnement, par exemple, endémique en paludisme. Et cette mutation vous confère une protection plus importante contre le paludisme. Donc cette mutation, au cours des générations, aura la tendance à augmenter en fréquence dans la population parce que les porteurs de cette mutation sont avantagés par rapport à ceux qui n'ont pas cette mutation, qui vous protègent pas complètement, mais plus contre le paludisme. Ça s'appelle la sélection positive. Après, on a la sélection purificatrice ou négative. Plus ou moins, c'est la même chose. On va voir que ce n'est pas vraiment la même chose dans un des exemples. Mais en gros, le principe est le même. C'est que vous avez des mutations qui arrivent ici au hasard à nouveau. Et cette mutation vous confère une vulnérabilité à développer une maladie. Par exemple, elle vous rend plus susceptible à développer le paludisme. Donc, au cours des générations, on aura la tendance, ces mutations auront la tendance à être éliminées de la population par ce qu'on appelle la sélection purificatrice. C'est-à-dire, malheureusement, les porteurs de ces mutations auront moins de chances de survivre face à la maladie, auront moins de chances donc d'avoir des enfants et donc de transmettre leur patrimoine génétique. Donc ces mutations en noir auront la tendance à disparaître. Et finalement, on a un autre type de sélection assez curieuse, que c'est ce que s'appelle la sélection balancée. Et c'est l'avantage à être divers, à être variable. Et c'est un cas classique, c'est ce qu'on appelle l'avantage à être hétérozygote, c'est-à-dire une mutation, vous savez qu'on a un chromosome de notre mère et un chromosome de notre père, et que pour une mutation donnée, on a deux allèles différents, donc deux formes différentes de la même mutation. C'est ce qu'on appelle l'état hétérozygote. Donc, cette mutation en état hétérozygote ici, c'est cet état hétérozygote qui vous protège contre le paludisme. Donc, on aura une tendance à augmenter le nombre d'hétérozygotes dans la population. Ce que c'est important à savoir, c'est que chaque type de sélection naturelle est même un autre type de sélection naturelle que c'est l'absence de sélection naturelle, ce qu'on appelle la neutralité, chaque type laisse une trace, une signature moléculaire dans le gène ou la région génomique ciblée ou pas par la sélection. Et c'est ces traces-là qu'on essaye de décortiquer au laboratoire pour essayer de voir des gènes d'intérêt. On va voir des exemples, s'ils ont été soumis ou pas à la sélection naturelle. Et s'ils ont été soumis à la sélection naturelle, ce qui témoigne de leur importance pour notre survie, quel type de sélection naturelle ils ont subi. On a plein d'exemples, on a pas mal d'exemples dans le génome humain de sélection naturelle. Que ce soit dans l'adaptation aux aliments, on a vu le cas du gène de la lactase, que cette mutation qui nous permet de pouvoir continuer à profiter du lait après la période du sevrage a été extrêmement avantagée par la sélection positive. C'est pour l'instant un des gènes qui montre la signature la plus forte de tous les génomes humains de sélection positive. On a aussi des autres cas comme l'alcool, la digestion de l'alcool, donc ce gène-là, l'alcool déshydrogénase, des gènes impliqués dans la pigmentation de la peau, c'est-à-dire les Européens et les Asiatiques montrent en gros un relâchement du contrôle sélectif, c'est-à-dire dans ces gènes en particulier, c'est moins grave si on accumule des mutations parce que c'est moins grave si on produit moins de eumélanine parce que c'est moins grave parce qu'on a beaucoup moins de disposition aux UV. Mais dans ce que nous intéresse au laboratoire, que c'est les maladies infectieuses et notre relation avec les agents infectieux, on sait que le système HLA que c'est impliqué dans l'immunité adaptative, c'est-à-dire l'immunité ciblée contre des pathogènes et des antigènes en particulier. Ces gènes-là, ils ont été soumis à la sélection naturelle. Ils montrent un excès de polymorphisme pour être en quelque sorte toujours prêt à pouvoir lutter contre les pathogènes. Parfois, l'agent sélectif est beaucoup plus clair, comme c'est dans le cas classique décrit depuis 1954 de Plasmodium falciparum, l'agent qui cause la malaria, ou si vous êtes hétérozygote pour l'allèle de l'hémoglobine S, vous allez être protégé, en tout cas plus contre le paludisme que celui qui n'est pas hétérozygote. On a des exemples aussi de la malaria causée par Plasmodium vivax, c'est un autre agent de la malaria. Et aussi, on a des traces de sélection naturelle dans un gène qui s'appelle CCR5 qui a été impliqué dans la résistance à HIV. Bien sûr, c'est pas HIV qui a causé la sélection naturelle parce qu'il est trop récent pour avoir exercé des pressions de sélection sur le génome humain, mais probablement, on ne sait pas grand-chose, d'autres agents infectieux au passé qui utilisent ce même gène pour rentrer dans la cellule auraient pu être la cause de ce signature de sélection naturelle qu'on trouve dans ces gènes. Ça a été proposé peut-être la variole ou la peste, mais pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Alors, dans notre cas particulier, nous au laboratoire, donc on s'intéresse à la sélection naturelle dans le génome humain et on s'intéresse surtout à comment la sélection naturelle a influencé notre système immunitaire, notre capacité de défense contre les agents infectieux. Le but final et principal qu'on a au laboratoire, c'est identifier des gènes du système immunitaire qui ont été sélectionnés, qui ont subi des fortes pressions de sélection naturelle, parce que ça équivaut à dire que ce sont des gènes qui jouent un rôle biologique majeur dans nos défenses contre les pathogènes, et ça leur rend des gènes importants pour jouer un rôle dans nos différentes vulnérabilités à développer une maladie infectieuse. Alors, je vais vous donner trois petits exemples de sélection naturelle et de maladies infectieuses, en tout cas du système immunitaire. Le premier exemple, c'est une région du génome qu'on a étudiée il y a quelques années, qui s'appelle DCCine. Cette région est composée de deux gènes que vous voyez ici. DCCine, il y a un gène homologue, c'est-à-dire très semblant, qui s'appelle L-Cine. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces deux gènes codent pour des protéines qu'on appelle des lectines qui participent dans ce qu'on appelle le système d'immunité inné. Ça veut dire quoi? Le système d'immunité inné, c'est la première ligne de défense qu'on a contre les pathogènes. Quand vous êtes infecté par un pathogène, on a des cellules comme les cellules dendritiques et les macrophages qui arrivent, ils vont directement reconnaître les pathogènes. Ils vont reconnaître que quelque chose est rentré qui est étranger à vous. Ils vont déclencher le premier signal d'alarme pour éventuellement pouvoir neutraliser le pathogène. Donc, vous pouvez bien imaginer que le système d'immunité inné est crucial pour notre survie contre les pathogènes. Ces deux protéines, ces deux lectines, sont connues pour interagir avec plusieurs pathogènes, comme le bacille de la tuberculose, le virus de l'HIV, Ebola, le virus de la dengue et de l'hépatite C. Et comme je vous ai dit, ces deux gènes sont extrêmement homologues, c'est-à-dire ils ont un taux d'identité nucléotidique, c'est-à-dire des séquences très semblantes parce qu'ils se sont originés à partir d'une ancienne duplication. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment cette région, ces deux gènes, ont évolué au cours de l'évolution et dans quelle mesure la sélection naturelle a agi ou pas sur ces deux gènes. Et qu'est-ce qu'on a vu? Ici, on a séquencé donc ces deux gènes, DCCine et L-Cine, dans un panel de populations humaines de différentes origines, géographiques, ethniques. Et qu'est-ce qu'on a vu? Ça, en gros, les couleurs montrent, vous avez la légende ici, en gros, les couleurs montrent la longueur d'une région de cette gène qui est connue pour être impliquée dans la reconnaissance du pathogène. Qu'est-ce qu'on peut voir? Que dans le premier gène, DCCine, même si on trouve tous ces allèles-là, c'est-à-dire on peut aller de 2 répétitions à 10 répétitions, vous ne le voyez pas parce qu'on n'a que 1 ou 2 individus par population que sont dans notre couleur, il n'y a qu'un allèle, c'est-à-dire une forme de ce gène, qui est prépondérant dans toutes les populations humaines. Toutes les populations humaines, dans les 98% des cas, ils ont juste cette répétition dans cette région qui est impliquée dans la reconnaissance des pathogènes. Tandis que si on regarde son jument, son homologue, L-Sign, on voit un scénario complètement différent. Déjà, les populations africaines présentent moitié-moitié de 5, de 6 et de 7 répétitions, en bleu et en rouge. Et dès qu'on sort de l'Afrique, on voit une variabilité extrême. On a appliqué différents tests statistiques pour comprendre pourquoi ça, et en gros, on a pu voir que DCSign est soumis à la sélection purificatrice, ou ce qu'on appelle aussi un fort contrainte sélective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que l'allèle 7 qui sera présent, parce que c'est celui qu'il faut qu'il soit là, en gros. Les individus que ça arrive, parce qu'il y en a dans toutes les populations quelques-uns, qui ne sont pas allèle 7 pour cette région impliquée dans la reconnaissance des pathogènes, ils ne vont pas augmenter en fréquence, ils vont voir être éliminés de la population. Tandis que L-Sign, il y a un avantage à être divers, et on a vu que c'était dû à un phénomène de sélection balancée, c'est-à-dire un avantage à être hétérozygote, surtout hors d'Afrique. Plus généralement, cette étude nous a permis de montrer une fois de plus comment la duplication génique est une très bonne stratégie pour augmenter, élargir le potentiel de défense de l'hôte. Pourquoi? Parce que si vous avez un gène qui se duplique, vous pouvez conserver le premier gène sous fort contrainte sélective pour qu'il assure sa fonction, mais en le dupliquant, vous pouvez relâcher le deuxième gène de son contrainte sélective parce que vous avez le premier qui assure sa fonction et ce deuxième gène va pouvoir accumuler des mutations et éventuellement des nouvelles fonctions. Donc la prochaine chose qu'on a fait, on s'est dit, si le premier gène est sous fort contrainte sélective, ça veut dire qu'il doit jouer un rôle majeur. Et des collègues à l'Institut Pasteur, le laboratoire de Brigitte Jiquel, avaient montré que DCSign, ici vous l'avez en rouge, sur la cellule dendritique, je vous rappelle que DCSign reconnaît les pathogènes directement, et vous avez le bacille de la tuberculose en vert, ils avaient montré que DCSign est le récepteur majeur sur la cellule dendritique du bacille de la tuberculose. Donc, la question qu'on s'était posée, c'est dans quelle mesure il peut avoir de la variabilité génétique dans DCSign que quand elle arrive, va rendre les gens plus ou moins susceptibles à développer une tuberculose. Donc pour cela, ce qu'on avait fait, ça avait été, on avait séquencé ce gène dans environ 350 individus qui avaient une tuberculose, et on avait comparé la diversité génétique de ce gène avec environ 350 individus qui ne développaient pas la tuberculose. Extrêmement important, tout le monde habitait dans la même région du Cap, je pense que ça s'appelle, Cape Town, en Afrique du Sud. Une région fortement endémique en tuberculose. Et qu'est-ce qu'on a vu? On ne va pas rentrer dans les détails, mais on a identifié un haplotype, ici, c'est-à-dire un ensemble de mutations, qui est fait de deux mutations qui ne sont pas localisées dans le gène lui-même, mais qui sont localisées dans la région promotrice du gène. C'est-à-dire, c'est la région qui contrôle s'il y aura plus ou moins d'expression du gène, c'est-à-dire plus ou moins de production de la protéine. Et on a identifié donc un haplotype fait de deux mutations dans la région promotrice qui est plus représentée chez les gens sains que chez les gens malades. Ce qui suggère que cet haplotype vous confère une protection plus importante contre la tuberculose que si vous n'avez pas ces deux mutations. Je vous rappelle que ça ne veut pas dire que si vous avez ces deux mutations, vous n'allez pas être malade. Ça veut dire que ça vous confère une protection plus importante. On n'est pas dans le cas, vous avez une mutation, vous avez une maladie. Ça, vous savez que ce sont des cas extrêmement rares. Il y a un composant environnement très fort. Ce n'est pas la même chose si vous habitez à Paris que si vous habitez à Dakar pour développer une tuberculose. Donc, il y a un composant environnemental. Et surtout, quand on va à la génétique, on est dans des maladies extrêmement complexes, où il peut y avoir plusieurs gènes, voire beaucoup de gènes impliqués. Et chacune va avoir une contribution extrêmement faible. Mais c'est déjà important d'identifier, même si faible, comment les gens qui présentent ces deux mutations sont moins prédisposés à développer la tuberculose. Donc, en gros, ce que c'est intéressant, et ce que je tiens beaucoup à faire, c'est essayer de faire un lien entre les études fondamentales en génétique évolutive et les études plus appliquées pour mieux comprendre nos différentes prédispositions aux maladies. Donc, si on met ensemble l'étude évolutive qu'on avait faite, l'étude plus médicale qu'on avait faite sur la tuberculose et toutes les études qui ont été faites par des collaborateurs ou des collègues avec d'autres maladies, où on arrive? C'est quoi la conclusion qu'on trouve? Donc, on voit d'un côté que DC-Sign est sous fort contrainte sélective, ce qui équivaut à dire qu'il joue un rôle majeur dans la survie. De l'autre côté, on identifie deux variants génétiques dans la région promotrice de ce gène qui vous rend plus protégé contre la tuberculose. Et si on regarde toutes les autres études qui ont été faites, on voit que jamais on trouve des mutations dans le gène associé à des maladies. Et toutes les associations qui ont été trouvées avec la tuberculose, avec l'HIV, avec le virus de la dengue, sont toujours des mutations qui sont dans la région promotrice. Et qu'est-ce que ça suggère alors? Ça suggère, ça d'ailleurs, ça fait beaucoup de sens avec ce qu'on trouvait, que ce gène est sous fort contrainte sélective, que ce gène ne peut pas accumuler des mutations qui vont changer la protéine. En revanche, on peut jouer avec la quantité de protéines qui sera produite. Et c'est ça qui va être plutôt impliqué dans les différentes vulnérabilités à développer les maladies. Et pour le gène homologue, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu qu'il avait un avantage à être hétérozygote, surtout hors d'Afrique. Et juste après qu'on avait fait cette étude, ça avait été montré que si vous êtes hétérozygote par cette région qu'on a vue avec plein de couleurs, que c'est la région impliquée dans la reconnaissance des pathogènes, si vous êtes hétérozygote pour 5 répétitions et 7 répétitions, vous serez plus protégé contre l'infection par HIV. À nouveau, c'est par HIV qui nous a amené à cette sélection balancée, parce que ça fait trop peu de temps qu'il existe, mais d'autres agents pathogènes utilisant L-Sign auraient été à la cause de qu'aujourd'hui, ceux que sont 5 et 7 répétitions pour ce gène-là seraient plus protégés contre l'infection par HIV. Donc, en quelque sorte, nos prédictions basées sur la génétique des populations sont soutenues par des données cliniques. Un autre exemple très rapide pour vous montrer comment l'approche évolutive, parfois, peut nous renseigner sur l'intérêt d'un gène ou le manque d'intérêt majeur, en tout cas, d'un gène. Et ça, c'est une situation assez curieuse. C'est un gène aussi impliqué dans l'immunité innée qui s'appelle MBL. C'est une lectine. Et ce gène, on savait, ça c'est le gène, que dans son premier exon, donc la partie codante, il y a 3 mutations ici et 3 mutations localisées dans la région promotrice qui vous rendent, ça c'est très connu, déficient en MBL. Ça veut dire que vous n'avez pas cette protéine qui circule ou faible producteur en MBL. Donc, vous avez une déficience, une immunodéficience, mais en même temps, ces mutations sont présentes à des fréquences très importantes dans la population. Alors, il y a quelque chose qui cloche ici. Comment c'est possible que des mutations qui vous rendent déficiente en une protéine de l'immunité peuvent arriver à des fréquences si importantes dans la population? Donc, il y a 2 hypothèses pour expliquer ça. Soit être déficient pour cette protéine ou faible producteur de cette protéine vous a conféré par ailleurs un avantage évolutif. C'est possible. Dans ces cas-là, si on étudie les gènes, on va avoir des signes de sélection positive pour les mutations qui vous rendent déficient ou faible producteur en MBL. Ou être déficient en MBL ou faible producteur en MBL n'a pas vraiment changé vos capacités de survie. Et donc, les allèles qui nous rendent déficients ou faibles producteurs d'MBL peuvent se balader dans les populations presque comme s'ils étaient des marqueurs neutres, parce que ce n'est pas grave d'être déficient en MBL. Je vous raconte cette histoire parce que la déficience en MBL, c'est une immunodéficience qui a été extrêmement étudiée en immunologie. Et en gros, il y a un peu deux écoles. Ceux qui disaient qu'être déficient en MBL nous rend plus susceptibles à plein de maladies, et ceux qui disaient que plutôt MBL devait être redondante, que ça c'était pas très grave si vous étiez déficient en MBL. Donc ça, on peut y répondre avec une étude évolutive, parce qu'en gros, on peut distinguer s'il y a des signes de sélection naturelle ou pas des signes de sélection naturelle. Et c'est ce qu'on a fait. D'abord, on a vu ici en couleur, vous avez les haplotypes, les mutations qui vous rendent déficient en MBL, ou faible producteur en vert en MBL. Vous voyez que si vous mettez ensemble le bleu et le vert, on arrive à des fréquences extrêmement importantes dans presque toutes les populations de déficients ou faibles producteurs en MBL. Donc on a fait une étude donc évolutive, et ce qu'on a vu, on ne va pas rentrer dans les détails statistiques, mais que la variabilité de ces gènes, de ce gène, est parfaitement compatible avec ce qu'on appelle la neutralité, c'est-à-dire pas de sélection naturelle. Ce que nous a permis de dire, avec notre approche évolutive, de soutenir une des deux hypothèses en immunologie, que c'est que nos données soutiennent un rôle redondant de MBL dans le système immunitaire. Et c'est là pourquoi, parce que si vous êtes déficient en MBL, c'est pas grave, ça nous a pas fait mourir plus ou moins que les autres, et on a pu transmettre ces mutations que nous rendent déficients en MBL presque comme si c'était un marqueur neutre. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que ça sert à rien, MBL. Ça dit juste que n'a pas influencé nos chances de survie, qui n'a pas joué un rôle majeur dans la survie de notre espèce. En revanche, si vous êtes déjà dans un contexte immunodéprimé pour d'autres raisons, que vous sortez d'une chimiothérapie, qu'il y a déjà une morbidité qu'on appelle coexistante, à ce moment-là, peut-être, être déficient ou pas en MBL peut faire que vous serez plus ou moins vulnérable à une infection. Après, on a fait très récemment une étude où on a voulu détecter la sélection naturelle à l'échelle du génome dans son entier. Donc pas une approche gène candidat, comme on a vu avec les exemples de DCSign et de MBL, mais on a essayé de le voir à l'échelle du génome humain dans son entier. La question qu'on s'est posée, c'était dans quelle mesure la sélection naturelle a influencé au niveau du génome la différenciation des populations. Dans d'autres mots, toutes nos différences qu'on peut avoir physiques, à niveau de susceptibilité à certaines maladies, est-ce que sont le résultat du hasard ou est-ce que la sélection naturelle a participé à cette différenciation entre les différentes populations humaines d'aujourd'hui? Et si la réponse est oui, c'est-à-dire que la sélection naturelle a aidé chacune de nos populations d'Africains, d'Européennes, d'Asiatiques à mieux s'adapter chacun à leur environnement climatique, nutritionnel, pathogénique, etc., quels ont été les gènes principalement ciblés par cette sélection naturelle qui a participé à l'adaptation de l'homme à son environnement? Pour cela, il faut comprendre déjà d'abord, ce que c'est la différenciation des populations. On a vu qu'on s'est tous originés en Afrique, avec une population ancestrale, Imaginez que dans cette population ancestrale, il y avait des gens qui étaient rouges, c'est-à-dire qu'il y avait une mutation dans un gène, qu'on va l'appeler la mutation rouge. La population se divise en européenne, européen, parce qu'il sort vers l'Europe, et africain. La fréquence de cette mutation rouge, s'il n'y a pas de sélection naturelle, donc on est dans un contexte de neutralité, elle va augmenter un peu en fréquence dans une population, descendre dans l'autre, la génération suivante à l'envers. Et aujourd'hui, on arrive à des différences génétiques très faibles entre populations. C'est-à-dire, si vous prenez le génome dans son ensemble, les différences entre les populations humaines sont extrêmement faibles. Ce qui, d'un point de vue génétique, comme vous savez, a aboli complètement, et heureusement, le concept de race chez l'homme. En revanche, il peut y avoir quelques gènes qui seront soumis à la sélection positive, c'est-à-dire l'adaptation de chaque population à son environnement. Imaginons ici, on avait la population ancestrale, il y en a les populations d'aujourd'hui, d'Africains et d'Européens. Mais il y a une différence. On a une mutation, la même, en rouge, ici et ici. Et cette mutation vous protège contre le paludisme. Mais il y a une différence ici, entre l'environnement, l'exemple que je donne ici, africain et européen, c'est qu'en Afrique, il y a une pression de sélection exercée par le paludisme, tandis qu'il n'y en a pas en Europe, dans cet exemple. Donc la mutation, en Afrique, aura la tendance à augmenter en fréquence, et pas en Europe, où elle peut même disparaître, parce qu'elle n'est pas nécessaire en Europe. Donc pour ce gène en particulier, pour cette mutation en particulier, il y aura une différence très importante entre les Européens et les Africains. Donc c'est ça qu'on a essayé de détecter à l'échelle du génome dans son ensemble. On a étudié environ 2,8 millions de polymorphismes dans différentes populations humaines. Et la question qu'on s'est posée, c'est quels sont les gènes? On savait déjà à la base que ça serait très peu, parce qu'on sait qu'il y a très peu de distance génétique entre les populations humaines. Mais quels sont les gènes qui montrent un excès de différenciation entre les populations humaines et qui donc seraient des gènes qui auraient été soumis à la sélection naturelle et qui auraient participé, chacun de ces gènes, dans une adaptation différente des différentes populations humaines? Donc, on a identifié environ 500 gènes. Ici, c'est une liste résumée des gènes qui montrent des différences extrêmes entre populations humaines. Là, on trouve des gènes impliqués dans l'apparence physique, heureusement. C'est d'ailleurs heureusement dans le sens qu'il ne faut pas faire la génétique pour voir qu'il y a des différences physiques entre nous. Mais pour nous, c'était un bon contrôle de que notre approche marchait. On a trouvé des gènes impliqués dans la réponse immunitaire contre les pathogènes, que comme vous savez, c'est la, comme je vous expliquais en tout cas, c'est la fonction biologique qui nous intéresse le plus. On a trouvé aussi des gènes impliqués dans ce qu'on appelle le syndrome métabolique. C'est un syndrome qui inclut l'obésité, la diabète, l'hypertension, etc. Enfin, des fonctions qu'on sait qui varient entre les populations humaines. En plus, ce qu'on a trouvé, c'est que ces gènes qu'on trouve sous sélection positive chez l'homme, et donc qui auraient participé dans l'adaptation locale de chaque population à son environnement, sont plus représentés dans les gènes qu'on sait déjà que sont impliqués dans des maladies. Ce qui nous renforce notre hypothèse, c'est-à-dire que chercher pour des gènes qui ont été soumis à la sélection naturelle, c'est une stratégie très informative pour identifier des gènes qui, pas seulement ont joué un rôle essentiel contre pour notre survie, mais qui peuvent être impliqués dans les maladies humaines. Et pour finir, un exemple très pasteurien, c'est-à-dire d'immunité innée, où on a étudié une famille de gènes, s'appelle les récepteurs de type Toll, qui sont des récepteurs majeurs du système immunitaire inné. Vous avez ici une cellule, Je vous expliquais que l'immunité innée, il y a les, comment s'appelle, les cellules, par exemple, la cellule dendritique, vous êtes infecté, il y a différents récepteurs, comme les récepteurs de type Toll, qui vont reconnaître directement les pathogènes. Chez l'homme, il y a 10 récepteurs de type Toll différents, donc 6 vont reconnaître plutôt les bactéries et les parasites, tandis que ces 4-là reconnaissent principalement les virus. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est dans quelle mesure la sélection naturelle a agi sur ces 10 gènes-là, pour essayer d'identifier ce qui joue un rôle majeur et essentiel de notre survie, dans notre survie, par rapport à ceux qui joueraient un rôle plus redondant dans les défenses de l'autre contre les pathogènes. Donc, on a séquencé les 10 gènes chez un panel multiethnique de population. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que 4 de ces gènes sont sous forte sélection purificatrice. C'est-à-dire que ces 4 gènes ne peut pas se permettre d'accumuler des mutations qui vont changer la protéine. Parce que dès qu'il y a une mutation qui va changer la protéine, elle va être éliminée de la population. Alors, tandis que les autres sont sur moins, il n'y a pas de contrôle sélectif particulier. Ces deux groupes de TLR auraient pu être deux groupes au hasard entre les 10 TLR. Mais quand on regarde qui fait quoi, qui reconnaît quoi, on se rend compte que ça coïncide avec ceux que d'un côté reconnaît les virus par rapport à ceux qui reconnaît d'autres microbes comme les bactéries, les parasites, les champignons, etc. Après, ce qu'on a vu, c'est donc, on a essayé de voir quelle proportion d'individus dans les populations présents dans les dix TLR récepteurs différents, des mutations soit qui sont prédites pour être délétères, soit qui vont casser la protéine. Et qu'est-ce qu'on a vu à nouveau? Que les 4 TLR que reconnaît le virus ne peuvent pas accumuler ce type de mutation, tandis que c'est les autres 6 TLR, on peut arriver, regardez ici TLR5, un 12% de la population a une mutation qui va casser la protéine. Ce qui équivaut, et qu'est-ce que ça nous dit au fond? Pourquoi c'est intéressant dans ces cas-là la génétique évolutive? Parce que ça nous permet de trancher entre ce gène qui joue un rôle essentiel et vital dans nos défenses contre les pathogènes par rapport à ceux, comme ça doit être TLR5, qui est moins important dans nos défenses contre les pathogènes et probablement redondant dans le système immunitaire. Donc pour finir, 2 minutes encore, comme conclusion, on a montré que la sélection purificatrice a influencé les 4 TLR qui sont impliqués dans la reconnaissance virale, ce qui nous fait proposer que les virus en général, par rapport au moins à 7 familles de gènes impliquées dans l'immunité innée, ils ont exercé des fortes pressions de sélection, mais on ne peut pas exclure d'autres forces qui ont participé à cette conservation extrême de ces 4 gènes quand les maladies auto-immunes. Je vous rappelle que ces 4 gènes reconnaissent les virus parce que reconnaissent les acides nucléiques, tandis que les autres gènes vont reconnaître des motifs moléculaires présents dans les parois des bactéries, etc. Les acides nucléiques, c'est quelque chose que nous avons. Donc peut-être, cette conservation extrême de ces gènes, c'est pour éviter des réactions contre notre soi et que ça déclenche une maladie auto-immune. En tout cas, quand on fait à nouveau le lien génétique évolutive maladie, le fait que ces 4 gènes sont soumis à des très fortes pressions de sélection purificatrice nous montre que quand quelque chose doit arriver, ça doit être presque létal, ce qui rend ces 4 gènes des candidats idéaux pour des phénotypes très sévères et donc les maladies génétiques mendéliennes, que sont ces maladies qui, quand vous avez une mutation, il y a beaucoup de chances que vous développez la maladie. Tandis que les autres gènes, on a vu que sont plus permissibles pour accumuler des mutations qui vont changer les acides aminés, ce qui les rend des candidats pour être impliqués dans la prédisposition complexe aux maladies. C'est-à-dire quand chaque mutation, tout seul, aura un effet très faible, mais dans un ensemble de mutations en particulier dans votre génome et dans un environnement particulier dans lequel on va être, là, on va pouvoir être plus ou moins vulnérable à développer la maladie. Donc j'espère que je vous ai convaincu que l'étude de la variabilité génétique humaine est très informative pour mieux comprendre d'un côté l'origine de notre espèce et des différentes migrations humaines. De l'autre côté, ça nous aide aussi à mieux comprendre dans quelle mesure la structure sociale et le mode de vie peuvent influencer la répartition de la diversité génétique entre les individus et les populations, et aussi comment l'étude de la variabilité génétique peut aussi nous aider à mieux comprendre notre relation avec les agents pathogènes. Avant de finir, je voudrais remercier les responsables de tout ce travail de quelques années, que c'est mon équipe à l'Institut Pasteur, ainsi qu'à toutes nos collaborations précieuses avec des équipes nationales ou internationales, et bien sûr, aux gens qui payent toute cette recherche. Merci beaucoup.
Alors, question. Tout de suite, une ici.
Oui, merci, bravo. C'était pas évident toujours à suivre. Ma question se déclinera en trois questions. Vous faisiez des rameaux, j'en fais un également. Tout d'abord, une petite question de détail, une question un peu plus technique, et puis une troisième question, peut-être fondamentale. La question de détail, c'était tout d'abord... dans votre crowbar croquis, vous mettiez pour l'Europe moins 40 000 ans, et puis juste après, quelques minutes après, vous disiez que l'homme était parti d'Afrique environ 60 000 ans avant, 60 000 ans à partir de maintenant. Donc, quid 60 000, 40 000 ? Question de détail. Je vous pose peut-être mes deux autres questions maintenant ?
Oui.
D'accord. Deuxième question technique, comment fait-on pour, quand on a une signature génomique, comment fait-on pour dire bon, ben ça date d'il y a 10 000 ans, 15 000 ans, 100 000 ans? Et ma troisième question, si le génome date d'il y a environ, l'étude du génome date d'il y a environ 15 ans, déjà il y a très longtemps, je suis déjà âgé, plus âgé que vous, je ne me rappelle plus le nom de ce grand éminent biologiste là. Bref, le fait que l'homme venait d'Afrique, c'était déjà monnaie courante. Apparemment, votre science confirme ceci. Je crois que l'étude de l'époque était basée sur des os, OS. Est-ce que ça vous inspire une réflexion quelconque, cette corrélation? Donc, les 40 000 ans, 60 000 ans, la question technique des 10 000 ans, et puis cette troisième question. Merci.
Donc, merci de ces questions. Là, bon, on joue, quand j'ai dit l'homme, on sait à peu près une science tout seul, pour commencer, parce que votre question m'amène à répondre avec une conclusion avant de passer dans les détails. Une science tout seul, comme la génétique, ne retient pas la vérité absolue. C'est-à-dire, c'est qu'on mélange, ou on contraste en tout cas, la génétique, l'anthropologie, la paléanthropologie, la linguistique, l'histoire, que peut-être on s'approche à ce qui est arrivé dans la vraie vie. En tout cas, pour le détail de 60 000 ans, 40 000 ans, 50 000 ans, on sait que l'homme aurait quitté, plus on étudie le génome, plus on va vers des études plus génomiques, on sait que c'est 50, 60, 70, 80, quelque chose comme ça. On n'est pas bon, et quand je dis « on », je dis toute la communauté scientifique en général, en génétique en tout cas, on a encore des intervalles de confiance larges quand on fait les datations. Ce qui m'amène à votre deuxième question de comment vous faites quand vous avez une région génomique pour 10, 15 000 ans. Ça, je mélange un peu les trois questions parce qu'elles sont très reliées. Là, c'est vrai que sur la base des os, on savait donc de l'anthropologie, de l'archéologie, on savait déjà que les restes fossiles en Afrique étaient plus anciennes, en tout cas, de ce qu'on trouvait en Europe et en Asie. Comme toute science, il y a toujours des biais. Est-ce que l'Afrique de l'Est a été plus fouillée que la forêt équatoriale au Congo? Je ne sais pas. On sait qu'aussi l'acidité des sols influence sur la possibilité que vous avez de trouver des fossiles en bon état ou pas. Mais en tout cas, ce qui amenait la génétique moléculaire, parce que même sans génétique moléculaire, aux années 50-60, avec les groupes sanguins, on savait beaucoup de choses aussi déjà sur l'histoire des populations. Ce que la génétique moléculaire a amené, en tout cas, c'est la vision plus complète, pas juste d'un groupe sanguin, que finalement c'est une petite histoire du génome qui peut être sous sélection naturelle, donc qui peut refléter pas l'histoire démographique de la population, mais l'histoire de ce petit morceau du génome. Donc la génétique moléculaire a amené une vision plus globale et surtout a permis chose que la biochimie, par exemple, ne permet pas, c'est la datation, ce que s'appelle l'horloge moléculaire. Vous savez, ça, cette région génomique, vous connaissez le taux de mutation, vous connaissez tous les combien de générations en moyenne il peut avoir une mutation. Ça vous permet après de dire, je vais étudier cette région génomique, combien de mutations j'observe et combien de temps il me faut pour accumuler ces mutations-là. Et ça, vous le traduisez en année et vous avez une date que vous pouvez mettre sur cette région génomique. Cela étant dit, les incertitudes dans les méthodes, dans le taux de mutation sont encore importants, et c'est pour ça que parfois vous voyez une date comme sur la base de ce marqueur génétique, l'homme aurait quitté l'Afrique il y a 60 000 ans, plus ou moins 20 000 ans. Mais au moins, ça ne vous dit pas il y a 2000 ans ou il y a 600 000 ans, que ça remettrait en cause tout le système d'évolution.
Ici.
En dehors de toute question éthique, il semblerait que ce qu'on devrait préconiser, tout au moins à l'échelle des populations, c'est l'hétérogénéité, en tout cas bien souvent. Est-ce que cela permet d'avoir des retentissements sur ce qu'on doit être considéré comme bon ou mauvais, non plus à l'échelle des populations, mais à l'échelle, par exemple, des croisements frères-sœurs ou au sujet des jumeaux? Autrement dit, quand on cherche ce qui est bon et mauvais pour une population, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est transposable à l'échelon de l'individu?
Bon, je pense qu'en génétique, et ça, je trouve votre question très intéressante pour clarifier aussi ma pensée. En tout cas, il n'y a pas du bon ou mauvais. Il y a de ceux plus adaptés à son environnement sans faire de hiérarchie par rapport à quelqu'un d'autre. Certainement, quelqu'un qui a une maladie génétique qui va entraîner une maladie génétique causée pour une mutation génétique, il n'a pas beaucoup de chance, c'est vrai. Mais si j'ai bien compris votre question par rapport aux frères et sœurs ou des jumeaux, en général, on sait que plus on se mélange, plus on va vers l'hétérogénéité, plus on évite l'endogamie, même quand la génétique n'existait pas, historiquement, on savait déjà la sagesse populaire, plus protégé on va être et plus sain on sera. Donc, même au niveau des populations, en général.
Alors ici, oui, mesdames.
Vous avez montré une carte qui indiquait les migrations et qui indiquait en particulier le peuplement du continent américain avec une belle flèche qui arrivait du détroit de Bering. Est-ce que ça ne contredirait pas les derniers résultats des fouilles archéologiques qui, elles, donnent des dates plus anciennes pour le sud de l'Amérique, du continent américain, par rapport au nord. Puisque des fouilles au Brésil, toutes récentes, qui sont en cours de datation, donnent des dates beaucoup plus anciennes sur les sites, beaucoup plus anciennes que ce qu'on possède, ce qu'on connaît sur le Nord.
Oui, en tout cas, contredire, je ne dirais pas contredire, mais ça questionne en tout cas. ce qu'on sait par rapport à la colonisation de l'Amérique. Ça fait déjà quelques années qu'on parle de que certains fossiles en Amérique du Sud sont parfois plus anciens qu'en Amérique du Nord. On sait sur la base aussi, par exemple, d'une autre discipline, la linguistique, qui propose que l'Amérique aurait été colonisée en trois vagues différentes de migration qui correspondraient aux trois grandes familles linguistiques des langues natives américaines qu'on trouve en Amérique. La génétique dit que plutôt ça aurait été une grande migration, il y a après des gens qui seraient restés sur place et il y aurait divergé après. Je pense que sur la colonisation de l'Amérique, je pense qu'on n'a pas du tout fini. Il n'y a rien de vraiment établi. Et à nouveau, on a les problèmes en génétique des datations, qu'on est en train de dater des événements sur la base des populations modernes. Mais les populations modernes ont pu beaucoup changer. Il y a des populations qui ont pu être, qui se sont étendues. Donc, à nouveau, c'est là que ça ne va être qu'en mettant toutes les informations de l'archéologie, de la linguistique, dans ces cas-là, que c'est aussi très intéressant, et de la génétique, qu'on va pouvoir résoudre cette colonisation de l'Amérique. En tout cas, reste une des colonisations les moins connues.
Merci.
Une seconde.
Concernant la recherche du génome féminin dont vous nous avez parlé, la cellule, pardonnez-moi, je n'ai pas retenu le nom exact, c'est un nom un peu compliqué.
De l'ADN mitochondrial.
Oui, c'est ça. Concernant les cellules et cette recherche dont vous nous avez parlé, jusqu'où pouvez-vous remonter la filiation de la mère, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, etc. Concernant la génétique, l'hérédité, enfin concernant les cellules familiales, jusqu'à combien d'années, si j'ai peur de ne pas bien me faire comprendre.
Non, oui,
mais jusqu'à combien d'années, ouais. 200 ans, 400 ans,
là,
500 ans, jusqu'où pouvons-nous remonter? Pourrions-nous, par exemple, remonter jusqu'à l'Homo sapiens?
Oui, j'ai compris. Mais là, on parle de deux choses différentes, parfois il y a un peu de confusion générale sur ça. À niveau de la population, on peut remonter jusqu'à l'origine de l'homme, parce que là, on voit toutes nos origines en Afrique, la sortie d'Afrique, etc. Ça n'a rien à voir, et c'est très différent, quand on parle de généalogie à niveau familial. C'est-à-dire, c'est pas la même chose quand on parle de la population et on fait pas attention de qui est la mère, de qui est tout ça, que quand quelqu'un me demande est-ce que je peux reconstruire l'histoire de ma famille ou même voir si X ou Y serait apparenté avec, là c'est complètement différent. Toutes les X générations, il peut avoir des mutations qui font que votre ADN mitochondrial, complètement par hasard, est un peu différent de celui de votre grand-mère maternelle. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas votre grand-mère maternelle. Donc, sur l'histoire qu'on travaille à niveau de la population, c'est une chose. Qu'on travaille avec des gènes, généalogie et de la génétique familiale, pas seulement, c'est pas mon travail, mais je trouve que c'est beaucoup plus risqué, en tout cas.
À prendre encore deux questions, monsieur, et puis monsieur.
Moi j'étais en fait juste pour intervenir sur le peuplement de l'Amérique. Je crois que, il n'y a rien d'antérieur à 20 000 ans en Amérique du Nord ou du Sud, et qu'il y a éventuellement des choses dont on a des imprécisions sur la datation, mais que au point de vue homo sapiens, il n'y a pas de présence d'homo sapiens en Amérique du Nord ou du Sud avant moins 20 000 ans. Ça, c'est à peu près sûr maintenant.
Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'Amérique, mais...
Oui, bon, il y a les problèmes archéologiques, je veux dire, ça c'est clair. Ensuite, dans le Pacifique, c'est différent, mais là, tout à l'heure, vous parlez de la migration du Pacifique. Il y a quand même un phénomène important, c'est le niveau d'eau, parce que l'homme, d'il y a 20 000 ans, ne naviguait pas. Il marchait à pied. Donc c'est en fonction de la montée et la descente des océans et de la possibilité d'accéder à des territoires avec ses pieds, parce qu'il n'avait pas d'autres moyens, qu'il a pu atteindre. C'est comme ça que les aborigènes australiens sont arrivés assez tôt en Australie, alors que dans les îles du Pacifique, le reste du Pacifique, il a fallu attendre. C'est à peu près, le peuplement n'est pas antérieur à 2000 ans dans les îles de Polynésie ou autres. Hein. Les gens naviguaient là.
Il
n'y
a rien à ajouter là.
Non, j'écoutais.
D'accord. Allez-y, dernière question, monsieur.
Oui, je voudrais avoir un éclaircissement sur une contradiction qui est apparue un peu entre deux exposés. Le vôtre et un exposé qui date de il y a quelque temps là. Je ne sais pas si vous êtes au courant du contenu de cet exposé, mais le titre était « Les nouvelles données sur la diversité génétique humaine » réintroduisent-elles la notion de race ? L'auteur était Bertrand Jordan. Et j'ai bien en mémoire, si vous voulez, un de ces derniers clichés qu'il nous a montré, c'est des études faites aux États-Unis sur la répartition de ce que vous appelez les SNP, je pense c'est des single nucleotides, enfin des mutations qui sur des relativement bien localisées. Et j'ai en mémoire, si vous voulez, le schéma qu'il nous a présenté d'une étude faite aux États-Unis où, par exemple, les blancs américains se concentraient, c'était un triangle, si vous voulez, se concentraient en un coin et puis un autre sommet, etc. Et d'ailleurs, il s'excusait en disant que ça rétablit peut-être la notion de race, mais pas du tout, il a éliminé tout problème de hiérarchie, si vous voulez, hein. Mais vous avez l'air de dire le contraire.
Non, je ne dis pas du tout le contraire. J'ai dit, par contre, que la génétique a aboli le concept de race, parce que c'est la vérité. Après,
ce n'est pas sa conclusion à lui. Hein.
Vous me laissez finir, s'il vous plaît. C'est ce que j'ai dit. Bien sûr, je ne veux pas jouer la langue de bois, quand d'ailleurs ça fait beaucoup de mal de la part de beaucoup de scientifiques qui ont dit qu'il n'y a pas de différence entre populations. Parce que c'est quand on cache quelque chose, qu'on donne importance à quelque chose qui ne devrait pas avoir aucune importance. Bien sûr qu'il y a des différences entre populations. Comme il y a des différences entre deux personnes de Majorque, d'où je viens. Bien sûr qu'on peut pseudo-classifier les populations, mais sur la base de leur patrimoine génétique. Mais ce n'est pas une relation directe. Vous pouvez étudier quelqu'un d'un point de vue génétique et dire oui, il y a beaucoup de chances qui tombent dans ce groupe de triangles, que ça va me faire dire que plutôt sont des Américains d'origine européenne, oui. Mais la relation n'est pas 100%. Donc là, on peut avoir une discussion sans fin, dans le sens que, c'est pas mon opinion, c'est la constatation est que, bien sûr qu'il y a des différences génétiques entre individus et aussi entre populations, mais pour moi, la race, mis à part la connotation raciste, disons que ça, c'est des entités génétiques extrêmement différenciées. Or, on connaît, et plus on se étale à niveau génomique, on voit que les différences entre populations sont qu'une petite partie de la diversité génétique. Et que parfois, vous pouvez trouver bien plus de différences entre quelqu'un du 16e arrondissement et quelqu'un du 15e, les deux français d'origine européenne de toujours, qu'entre quelqu'un de Paris et quelqu'un d'Afrique. Ouais. Vous avez l'air de ne pas me croire.
Bon, écoutez, apparemment, on ne peut pas continuer la discussion. Non, on la verra après.
C'était clair. Merci. Louis Singada, merci beaucoup.